Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information donc jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pas de totem, des mains tendues vers la droite. À une semaine de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne, qui va recevoir une dernière fois les partenaires sociaux, lance l'opération déminage. Vous avez entendu 65 ans pour l'âge de départ à la retraite. Eh bien, ce n'est toujours pas sûr. On vous dit tout dès le début de cette édition. Et comme une réforme chasse l'autre, volte-face sur celle de l'assurance chômage, la durée d'indemnisation ne baissera finalement pas drastiquement si le taux de chômage baisse sous les 6%. Dans ce RTL Midi aussi, la colère à Vaux-en-Velin, moins de 3 semaines après l'incendie qui a fait 10 morts. Les dealers pointés du doigt dans le drame sont toujours bien implantés dans le quartier. On y reviendra à 12h40.
Dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous, en France, avec la colère des professeurs de Gironde.
Pas de rentrée dans leur collège de Blanquefort. Aujourd'hui, ils dénoncent de graves problèmes de sécurité. À suivre aussi l'hommage de la communauté kurde aux victimes de la tuerie du 23 décembre à Paris. Le prix de l'eau qui s'envole et puis l'homéopathie qui n'est plus remboursée depuis 2 ans. Vous le savez, ce sera à midi 20 dans RTL Midi, votre ville. Les Français continuent-ils à être friands des petites granules blanches? On posera la question à la patronne des laboratoires Boiron. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, littérature aujourd'hui avec Crépuscule, le dernier roman de Philippe Claudel, énorme coup de cœur de Bernard Lehu. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Seriez-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 65 ans?
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute, faut-il mettre une amende aux parents retardataires à l'école? C'est la mairie de Morlaz dans les Pyrénées-Atlantiques qui adresse une pénalité aux parents qui viennent chercher leur enfant après l'horaire de fermeture de la garderie à 18h30.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Céline. Bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un temps plus sec et toujours une relative douceur malgré la baisse des températures.
Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Elle sera présentée dans une semaine exactement, la réforme des retraites au cœur de cette rentrée de janvier. Les partenaires sociaux sont attendus pour une dernière consultation cet après-midi et demain à Matignon. Mais Elisabeth Borne a reprécisé certains contours du texte à venir ce matin chez nos confrères de France Info. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour.
D'abord, ce chiffre, 65 ans pour l'âge de départ à la retraite, eh bien, c'est pas sûr du tout.
Oui, sur ce point, la Première ministre confirme que ce n'est pas tranché. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y aura bien un recul de l'âge légal de départ à la retraite, à 64 ou 65 ans, contre 62 ans aujourd'hui. C'est l'âge légal à partir duquel vous pouvez demander à partir à la retraite quand vous voulez une retraite à taux plein si vous avez cotisé le bon nombre de trimestres.
Ça, c'est pour l'âge de départ. Mais il y a la durée de cotisation. Et là, c'est peut-être un peu plus clair.
Oui, le gouvernement n'ira pas au-delà des 43 années de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, soit 172 trimestres. En fait, ce qui est déjà prévu avec la réforme Touraine, en application depuis 3 ans. La durée de cotisation est progressivement allongée pour atteindre 43 annuités en 2035. Là, avec cette nouvelle réforme, il va falloir accélérer, puisque l'idée, c'est d'atteindre 43 annuités, toujours, mais en 2031. Donc, dans tous les cas, il va falloir cotiser plus pour toucher votre retraite intégralement.
Et puis, Nerissa, la retraite minimum, c'est confirmé, va bien augmenter.
Oui, ce sera 85% du SMIC, soit environ 1200 euros net contre 1100 euros aujourd'hui.
Ça, c'est bien quand même. Ça, c'est vraiment une grande et bonne nouvelle.
À taux plein. En revanche, on ne sait pas encore qui va pouvoir en profiter. Est-ce que ce sera seulement les personnes concernées par la réforme ou est-ce que ceux qui cotiseront plus?
Il faudrait que ce soit tout le monde.
Ou est-ce que ce sera aussi les retraités actuels, effectivement? Là, il y aura débat à l'Assemblée et au Sénat.
Elisabeth Borne consulte cet après-midi, demain à Matignon. Pascal, si vous voulez aller porter le dossier, n'hésitez pas.
Non, mais les auditeurs vont le porter, le dossier, j'imagine, entre 13h et 14h30.
Autre précision de la Première ministre, en tout cas ce matin, cette fois sur la réforme de l'assurance chômage. L'exécutif retire un point très critiqué du texte. Finalement, la durée d'indemnisation ne baissera pas de 40% si le taux de chômage baisse au point de passer sous la barre des 6%. On y reviendra en détail dans le journal de midi et demi.
Vous connaissiez l'or noir, voici désormais désormais l'or bleu.
Car rien n'échappe décidément à l'inflation. Le prix de l'eau du robinet bondit à son tour, des hausses qui frôlent les 20% dans certaines villes, Pierre Herbulot.
Oui, dans le Puy-de-Dôme, dans les Deux-Sèvres, la Manche, partout, les collectivités, les communes, parfois, ont une bonne raison d'augmenter le prix de leur eau. Plusieurs même. D'abord, le coût de l'électricité. Ici, elle sert à alimenter les pompes, les machines qui permettent de traiter l'eau. Vous avez aussi la forte augmentation des produits qui servent à la purifier, comme le chlore ou le charbon. Troisième raison, la hausse du salaire des agents de maintenance aussi. Et enfin, mais ça c'était déjà le cas avant, les travaux nécessaires pour entretenir le réseau vieillissant. Résultat, la moyenne de l'augmentation du prix de l'eau doit avoisiner les 10% cette année, donc bien au-delà de l'inflation. Alors ça change quoi pour nous au final? Le maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes a fait le calcul pour RTL en passant son mètre cube d'eau de 4,26€ à 4,80€, ça fait plus 13%. C'est 65€ de plus à payer par an pour une famille de 4 personnes. De toute façon, il n'y a aucune alternative. J'ai comparé avec le prix d'une bouteille pour, vous me direz, pour se doucher, c'est pas pratique, mais
non,
voilà la
trop.
Différence entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Alors, un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, même à 4,80€, l'équivalent d'une grande bouteille coûte un demi-centime dans le robinet, c'est 40 à 80 fois moins cher que de l'eau dans une bouteille en plastique.
Pierre Herbulot du service économie d'RTL, merci pour
RTL Midi.
Des milliers de Kurdes réunis à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise pour un dernier hommage aux victimes de la tuerie raciste du 23 décembre dernier à Paris.
L'auteur des tirs, un homme de 69 ans qui sortait tout juste de détention provisoire, a reconnu une haine des étrangers pathologique devant les enquêteurs. L'avant-veille de Noël, il a donc tué 3 personnes par balle devant le centre culturel de la rue d'Enghien dans le 10e arrondissement de la capitale. Des victimes, Maxime Lévic, la communauté kurde a tenu à honorer avant que leurs corps ne soient rapatriés sur leur terre natale.
Oui, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, un immense chagrin avant le dernier voyage auprès de leur famille en Turquie. Les 3 victimes de l'attaque de la rue d'Enghien à Paris, ici, les mines sont tristes, les yeux sont embrumés, les mains tiennent toutes à un drapeau jaune et rouge représentant la communauté kurde. Une grande salle est prévue avec sur une estrade les portraits des Kurdes tués il y a 2 semaines. J'y rencontrais Benissi qui s'apprête à leur dire adieu.
On est là pour dire dernier voyage pour eux. Son famille qui attend depuis certains temps en Turquie, ils sont tristes. En plus, ils sont juste dans mes villages à côté. Et on est là pour voyager, quoi, pour dire au revoir.
Sur les photos, on peut voir Mir Perwer, un chanteur kurde engagé, mais également Abdurrahman Kizil, un militant de longue date de la cause kurde, et enfin Emin Kara, une figure emblématique du mouvement des femmes kurdes en France. Elle avait combattu Daesh en Syrie. Benissi la connaissait personnellement.
Je connaissais personnellement, 15 jours avant, on a été dans une soirée qui les chantait, on a discuté, ça me touchait trop parce que voilà, c'est vraiment, on a discuté et 15 jours après, elle a été tuée, quoi. Voilà, c'est tout.
Alors ils sont venus de toute la France et de plusieurs pays européens pour rendre ce dernier hommage qui commence à l'instant. Vous l'entendez, de la musique kurde résonne ici à Villiers-le-Bel, un dernier recueillement avant une grande marche prévue ce samedi 7 janvier à Paris.
Maxime Lévy à Villiers-le-Bel pour RTL.
Mayotte, c'est la France, mais c'est dans ce département-là les enfants ne peuvent pas aller à l'école toute la journée.
Et c'est pour ça que la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, a lancé ce matin sur RTL un appel aux autorités pour obtenir davantage de moyens, pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi pour renforcer les services publics et donc notamment l'école.
Tous nos services sont saturés. Dans les écoles, effectivement, il y a un seul et même bâtiment, mais il y a des rotations. Une classe le matin, une classe l'après-midi. Parce que pour suivre l'évolution démographique avec l'arrivée des migrants, il faudrait construire une école par semaine à Mayotte. Vous
mais
imaginez,
on fait cours le matin ou l'après-midi parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe, c'est ça?
Oui, c'est le territoire où on construit le plus d'écoles. C'est d'ailleurs l'État, contrairement au reste du pays, qui prend en charge la construction des écoles à Mayotte. Et en fait, les bâtiments sont tellement saturés qu'on a une classe le matin avec un effectif et l'après-midi, c'est une autre classe qui est dans ce même bâtiment.
Estelle Youssoufa, députée de Mayotte avec Amandine Bégaud sur RTL ce matin. Mais qui en veut au garage automobile d'Evreux dans l'Eure? 83 véhicules ont été brûlés la nuit dernière dans 2 concessions de la ville. Les mêmes concessions déjà touchées durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Le parquet dit être confronté pour la première fois à un phénomène de ce genre. La météo, on vous retrouve comme promis. Peggy Broche, vous nous promettez un après-midi doux mais humide.
Oui, alors c'est tout de même plus sec que ce qu'on a eu ces derniers jours, mais c'est vrai qu'il reste quelques pluies qui sont en train de s'évacuer, par exemple par le sud-ouest. Il reste quelques gouttes. On a également de la neige, avec une limite pluie-neige à 1800 mètres sur les Savoies. Sur le nord-est, c'est entre nuages et éclaircies. Sur le reste du pays, on a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne, qui donne des pluies et du vent entre la Bretagne et le Cotentin. Entre les pays de la Loire et le nord, là, ça reste nuageux. Et on a de belles éclaircies, en revanche, entre le sud-ouest, en allant vers le massif central et en remontant vers l'Île-de-France, même s'il peut y avoir encore quelques plaques de grisaille qui résistent sur le sud-ouest. Tout ça sous des températures qui sont en baisse cet après-midi sur l'est, mais ça reste doux pour la saison, de 7 à Langres jusqu'à 18 à Ajaccio, 17 à Toulon, 16 à Marseille, 14 à Montpellier, 13 à Toulouse, 12 à Agen et Cherbourg, 11 à Lille, 10 à Paris, 9 à Metz et 8 à Dijon.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous en France, puisque chaque jour, vous le savez, l'info au plus près de vous. Nous partons où aujourd'hui ?
En Gironde, à Blanquefort plus précisément. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Céline et Pascal.
Vous êtes devant le collège du Paty, collège qui n'a pas rouvert ce matin pour la rentrée scolaire. Les professeurs dénoncent en effet une banalisation de la violence et refusent donc de faire cours.
Exactement, le collège du Paty est dans une zone pavillonnaire avec quelques bâtiments plus élevés, donc pas de cours ce matin. Les enseignants estiment que le collège est en danger. Trop de violence physique et verbale devant l'établissement. J'ai pu discuter avec des élèves. Premier problème, le libre accès aux toilettes.
Nous, on a peur de se faire taper maintenant et tout ça. Bah, ils bouchent les toilettes, ils se mettent devant, ils nous poussent et tout, ils nous bousculent et voilà.
Et toi, tu vas pas aux toilettes de la journée ?
Bah, heureusement que je rentre le midi, mais sinon, non. Sinon, j'y vais pas le matin ni l'après-midi. Mais je sais qu'il y a des copains à moi, ils y vont pas du tout de la journée. C'est vraiment, ils se retiennent et à un moment donné, ils ont mal le soir.
Bagarre régulière dans la cour, cavalcade dans les couloirs et harcèlement également. Écoutez le récit de cette élève de 4e.
J'ai fait une crise d'angoisse devant un contrôle et des 6e et des 5e ont crié dans toute la cour que je me faisais, on va dire ça d'une manière correcte, que je me faisais prendre de tous les côtés, quoi. J'ai été choquée parce que franchement, j'étais dans le mal et tout le monde a dit ça, quoi. Et on ne dit pas des choses comme ça en 6e et en 5e quand on est tout petit à l'âge de 11 ans. Et je sais pas, c'est un petit peu bizarre.
Et comment en est-on arrivé là, Philippe ?
Alors, pour les parents, les profs et les élèves rencontrés ce matin, il manque des surveillants qualifiés. Aurore Lamotte est parent d'élèves.
On manque de moyens humains au collège du Paty et ça a des conséquences sur les incivilités, sur les bagarres, sur la gestion de la sécurité des enfants. Et il nous faut davantage de moyens humains sur le collège du Paty. Pour moi, il y a urgence. Je veux dire, ils sont 780 gamins, on tourne avec 4 surveillants, c'est pas possible, quoi. Déjà sur la pause méridienne, quand il y a 2 surveillants affectés au réfectoire et qu'il y en a un au portail, il n'y en a plus qu'un dans la cour. Donc effectivement, ça peut être compliqué à gérer.
L'inspectrice d'académie vient de m'annoncer qu'une équipe mobile de sécurité sera dans les murs du collège jeudi prochain pour poser un diagnostic sur la situation dans l'établissement. Mais cette même inspectrice affirme qu'il n'y a pas, pour le moment, de signalement particulier sur des faits de violence dans cet établissement.
Philippe de Maria, Blanquefort, donc en Gironde, pour RTL. Merci beaucoup, Philippe.
Et on pourrait évidemment développer, pourquoi pas, ce thème entre 13h et 14h30, notamment si vous êtes un parent d'élève et que vous souhaitez réagir au sujet de Philippe de Maria. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. La Russie qui reconnaît la mort de 63 militaires après une frappe ukrainienne, et cela alors que la ligne de front semble se figer. On fait le point après la pause. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi.
C'est la première fois depuis le début du conflit que Moscou reconnaît de si sévères pertes en une seule attaque. La frappe ukrainienne à Makivka a tué 63 soldats russes selon le Kremlin. Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
Kiev a revendiqué cette attaque et avance de son côté le chiffre de plusieurs centaines de victimes dans les rangs de l'armée russe.
Oui, 63 morts ou 400 selon les Ukrainiens. Le ratio est énorme. Pour l'instant, ce chiffre est invérifiable. Les Ukrainiens expliquent qu'il y avait 600 soldats russes bus stationné dans cette école, transformée en caserne. 600 soldats nouvellement conscrits, repérés par l'activité de leur téléphone portable et surtout 600 soldats installés dans le même bâtiment que des stocks de munitions. Le bâtiment a donc été complètement soufflé. Le bilan humain est encore en cours d'évaluation. Moscou a donc avoué 63 morts. Les blogueurs russes parlent, eux, d'au moins deux fois plus, mais peut-être que nous ne connaîtrons jamais le chiffre réel. D'ailleurs, on entend les premières critiques russes contre l'état-major sur les réseaux sociaux. Des blogueurs fustigent le commandant qui a mis ses 600 appelés dans un bâtiment bourré de munitions. Et puis la question des téléphones portables, les soldats ont été repérés car beaucoup ont appelé leur famille en Russie. Et c'est cette surutilisation du réseau téléphonique qui a permis en fait aux Ukrainiens de les localiser.
Cette réponse de l'armée ukrainienne, elle intervient après des fêtes de fin d'année marquées par les très nombreuses attaques de drones russes, notamment sur Kiev et Kherson.
Oui, la Russie continue de viser les installations civiles et énergétiques, toujours dans le but de saper le moral des Ukrainiens. Les infrastructures ukrainiennes sont donc régulièrement visées par des drones d'attaque. Les Ukrainiens apprennent à vivre au rythme des coupures de courant et des coupures d'eau. Selon le président ukrainien, plus de 80 drones russes ont été abattus depuis le début de l'année 2023.
Émilie, on a l'impression que sur le front, à proprement parler, la situation s'est figée ces dernières semaines. On en est où exactement dans ce conflit ?
Oui, c'est vrai qu'il y a peu de mouvements ces dernières semaines. Les Ukrainiens sont sur du défensif pur, notamment dans l'Est, autour des villes de Kremina et Bakhmout. Mais aucun des deux camps ne gagne du terrain. Il faut dire que les conditions climatiques génèrent plutôt une guerre de position, de tranchées pour le moment. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme chez nous, il ne fait pas assez froid en Ukraine. Les sols ne gèlent pas. C'est donc de la boue et les véhicules blindés ont du mal à circuler. Mais les pertes humaines sont colossales des deux côtés. La bataille de Bakhmout est surnommée le hachoir à viande, pour vous donner une idée des pertes, et cela des deux côtés. L'hiver semble aussi plutôt profiter aux Ukrainiens, mieux équipés pour affronter le froid. On a vu des soldats russes partir au front sans chaussettes et avec des bottes en plastique.
C'est vrai que sur le plan militaire, on ne voit pas forcément une solution. On a l'impression que tout cela est figé. Il y aura peut-être une évolution sur le plan politique. Mais c'est quoi les enjeux stratégiques des prochaines semaines pour les armées russes et ukrainiennes ?
Alors bien sûr, c'est difficile à dire. On n'a pas une boule de cristal et les contre-offensives ne sont jamais connues à l'avance. Mais il est sûr que l'armée ukrainienne va concentrer ses efforts au nord-est et autour de Kherson dans le sud. Il s'agit vraiment de reprendre l'avantage dès le gel des sols, en fait, pouvoir regagner du terrain dans le Donbass, dans le sud. Le chef d'état-major ukrainien indique que 40% des territoires occupés par les Russes depuis le 24 février ont été libérés. Il en reste donc encore plus de la moitié. On pense notamment à la centrale de Zaporijja et à la ville de Mariupol. La grande incertitude se situe autour des forces russes. Alors, nouvelle mobilisation ou pas, combien d'hommes mieux formés, pour aller où? Tout le monde regarde bien sûr vers la Biélorussie où Vladimir Poutine pourrait à nouveau y envoyer des bataillons, mais peut-il lancer à nouveau une offensive par le nord au risque de connaître un nouvel échec, ou s'agira-t-il seulement de défendre les territoires déjà aux mains des Russes? Tout est sur la table puisque, comme vous le disiez, pour l'instant, ni les Ukrainiens ni les Russes ne sont prêts à négocier une quelconque trêve.
Merci beaucoup Émilie Beaujard, et on reviendra évidemment régulièrement dans tous nos rendez-vous d'informations sur cette situation, sur la guerre en Ukraine. Merci Émilie.
Dans un instant, RTL Midi Votre Vie, 2 ans après le déremboursement de l'homéopathie, les Français se sont-ils détournés des granules blanches? On en parle tout de suite avec la patronne des laboratoires Boiron.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi Votre Vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est ce qui fait votre quotidien et aujourd'hui.
Il est important que chaque euro dépensé par la Sécurité sociale soit un euro dépensé à bon escient. Pour être remboursé par la Sécurité sociale, il faut avoir fait la preuve d'une efficacité qui soit supérieure à ce qu'on appelle le placebo.
C'était sur RTL le 10 juillet 2019. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, expliquait le déremboursement de l'homéopathie depuis le 1er janvier 2021. Les petites granules blanches ne sont donc plus remboursées du tout par la Sécu. Bonjour Valérie Lorenz-Moinceau.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale des laboratoires Boiron, numéro 1 de l'homéopathie en France. Avant de s'arrêter sur les conséquences du déremboursement pour votre groupe, un premier point avec vous, Nathan Bocard, journaliste ici à RTL. Qu'est-ce que l'assurance maladie a économisé avec cette décision de dérembourser l'homéopathie ?
Environ 127 millions d'euros par an. C'est en tout cas ce qu'elle avait payé en 2018 pour rembourser les produits homéopathiques.
C'est pas grand-chose, disons-le.
Exactement, ça représente un peu moins d'1% du montant total des remboursements de médicaments. Donc c'est en effet pas grand-chose proportionnellement, mais qu'est-ce que ça a changé pour les patients ? En 2019, un Français sur 5 avait régulièrement recours à l'homéopathie. Depuis qu'elle n'est plus remboursée, le syndicat des médecins homéopathes estime que 85% de ses habitués continuent quand même d'en utiliser. Mais les ventes, elles se sont écroulées. On est passé de 126 millions de produits vendus en 2019 à environ 50 millions l'année dernière. La faute notamment au déremboursement, mais aussi à la hausse des prix. Il faut savoir que la TVA sur l'homéopathie a fortement augmenté et que les laboratoires, on va en parler, peuvent désormais majorer eux-mêmes leurs tarifs et ils le font pour compenser leurs pertes. Le prix moyen des tubes de granules homéopathiques est passé de 2,45 € en moyenne à 3,80 €.
Merci Nathan. On vous retrouve donc Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale, on le rappelle, du laboratoire Boiron. Cette baisse de la consommation qu'évoquait à l'instant Nathan, vous la confirmez, vous l'avez ressentie directement ?
Alors déjà, je voudrais dire que Nathan a bien raison. Le remboursement de l'homéopathie à l'époque, en 2019, représentait quasiment rien. Hein, parce qu'il faut savoir que c'est moins de 1%, mais aussi quand on est passé à 15%, c'était presque zéro, hein, le remboursement de l'homéopathie. Par contre, vous avez raison également de dire que la baisse a été à peu près de 40% hein, en termes d'unités.
En termes de
consommation, voilà, en termes de nombre de granules, enfin de tubes de granules, c'était une baisse à peu près de 40%, ce qui est souvent le cas, hein, qui est même tout le temps le cas quand les médicaments sont déremboursés. Et le paradoxe, c'est que dans le même temps, les patients ont encore très confiance en l'homéopathie et sont très fidèles. Je voudrais attirer votre attention sur une étude qui vient de paraître, qui est Harris Interactive, qui montre qu'effectivement 73% des Français font confiance en l'homéopathie encore aujourd'hui, que 79% l'utilisent au cours de leur vie et que 86% sont favorables au remboursement. Donc vous voyez, il y a toujours cette demande. Ce matin encore, j'ai reçu 3 courriers de patients qui me demandaient encore à en appeler au remboursement de l'homéopathie.
Une des conséquences du déremboursement, et Nathan le disait aussi, ce sont des prix plus libres. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont grimpé. Comment vous le justifiez ?
Alors, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, hein, la TVA est passée de 2,1% à 10%, donc ce qui, bien évidemment, a provoqué une hausse de l'homéopathie. Dans le même temps, il y a eu un ajustement avec l'inflation, mais comme tout autre médicament. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que nous avons toujours eu une politique de prix bas de nos granules en France. En Europe, vous voyez, le prix moyen est de 5 €. Donc en France, il est en moyenne de 3 €. Donc le prix de la granule, des tubes de granules en France reste assez bas comparativement aux pays européens et de toute façon reste un médicament qui est peu cher.
Mais c'est pas en train de devenir une médecine, si je puis dire, de riche, l'homéopathie. Est-ce que vous avez d'ailleurs une idée du profil sociologique des patients qui utilisent vos traitements ?
Alors absolument pas, c'est pas du tout un médicament pour les riches, je vous l'ai dit, hein, c'est un médicament à 3 €. Par contre, les profils, vous avez raison, c'est des profils très, très, très intéressants d'ailleurs, parce que c'est très intéressant pour ces patients-ci, l'homéopathie. On a beaucoup d'enfants qui sont soignés en homéopathie, les femmes enceintes, parce que quand vous êtes enceinte, vous pouvez rien prendre à part l'homéopathie, les personnes fragiles, les personnes qui sont atteintes de maladies longue durée et qui ont besoin d'un accompagnement, par exemple pour accompagner une chimiothérapie, une radiothérapie, eh bien, vous avez de l'homéopathie qui va être très utilisée pour enrayer les effets secondaires, hein, d'une radiothérapie.
Il y a toujours un débat, évidemment, on en parlera peut-être avec les auditeurs tout à l'heure, on aura des témoignages, mais si j'ai un rhume, par exemple, vous proposez quelque chose pour soigner mon rhume en homéopathie, je suis pas
bien
certain
évidemment,
que ça
marche. Bien évidemment, il y a beaucoup de médicaments homéopathiques qui sont adaptés. Alors, on a des spécialités qui sont là pour soigner avec une indication et les symptômes du rhume. On a aussi les homéopathes qui sont toujours là aussi pour adapter les traitements à
volontairement,
votre type
je parlais de quelque chose de bénin et de léger. Quand vous me parlez chimiothérapie, je veux bien que l'homéopathie arrive sur un cancer lourd, mais je ne suis pas convaincu.
Alors elle va intervenir, je vous coupe tout de suite, elle ne va pas intervenir sur le cancer en lui-même, mais elle va intervenir sur les effets secondaires des traitements qu'on doit vous donner. Voilà, donc ça ne va pas remplacer la chimiothérapie, mais ça va vous permettre, avec l'homéopathie, d'aller au bout de votre chimiothérapie. Parce que le problème, souvent, c'est que les patients sont fatigués, sont vraiment atteints par des symptômes qui sont des effets secondaires sévères. Et donc, grâce à l'homéopathie, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre chimiothérapie.
C'est ça, ça apporte c'est ça un qui certain confort.
Ça apporte un certain confort, une qualité de vie qui vous permet justement de supporter des traitements lourds qui sont obligatoires, hein, bien évidemment, quand vous avez ce type de maladie.
Qu'on ne soigne pas avec l'homéopathie, on a bien compris. Pour revenir à un groupe, comme Boiron le disait, numéro un du secteur en France, comment vous avez compensé une telle baisse de consommation, si je puis dire? Il a fallu licencier?
Alors effectivement, on a fait un plan social qui était lourd, hein. 512 personnes ont dû quitter l'entreprise, donc c'était vraiment très douloureux pour l'entreprise et pour toutes ces personnes. Et dans le même temps, nous avons innové. Donc nous avons innové en homéopathie, parce qu'encore une fois, on a les patients qui ont besoin de nous, donc on a beaucoup innové en homéopathie, avec des nouveaux médicaments, des nouvelles présentations.
Par exemple, on a eu
le médicament Cosintal pour les douleurs des coliques du nourrisson, sont Varesol pour les symptômes de la varicelle, Labiaméo pour l'herpès labial.
Voyez, pour le Covid, vous n'avez rien de spécial?
Alors on a rien contre le Covid, hein, qui est un virus et voilà, qui on n'a pas de vaccin par exemple contre le Covid. Par contre, on a des médicaments qui vont agir sur les symptômes de la Covid. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez des maux de tête, quand vous avez de la toux, voilà, pour les symptômes, bien évidemment, là on peut agir, pas bien sûr pour enlever le virus.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, voilà. Madame Laurence Poinceau, et bonne année à vous, comme à tous nos interlocuteurs.
Merci beaucoup, et puis j'en profite pour souhaiter une bonne année, et j'espère que l'homéopathie sera à nouveau remboursée cette année, pour tous ces patients fragiles. Voilà.
A priori, ce n'est pas à l'ordre du jour, hein?
C'est pas l'heure du jour, mais j'en appelle au gouvernement pour qu'effectivement ils prennent en compte ce besoin des Français.
Vous savez ce que vous faites? Vous envoyez une petite granule blanche à Madame Borne ou au président Macron pour les inciter, pourquoi pas, à rembourser cette homéopathie. C'est souvent un thème qu'on a utilisé avec les auditeurs. En tout cas, on leur a demandé beaucoup leur avis. Et tout à l'heure, j'aimerais bien avoir des témoignages vraiment sur ceux qui régulièrement se soignent avec l'homéopathie. Ça nous intéresse toujours beaucoup. L'info est de retour dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Et avec la grande opération déminage du gouvernement sur la réforme des retraites à une semaine de sa présentation, sur l'âge de départ à la retraite. D'abord, les 65 ans ne sont pas un totem, assure la Première Ministre. Le gouvernement qui, dans le même temps, fait volte-face sur l'assurance chômage. La durée d'indemnisation ne sera pas drastiquement réduite si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. On vous explique tout dès le début de ce journal. Dans cette édition, également un coup de pouce pour les boulangers frappés par la crise des prix d'énergie. Les urgences de Thionville en pleine crise, plus de 90% des infirmiers sont en arrêt maladie selon les syndicats. Nouvelle provocation d'un ministre israélien sur l'esplanade de la Grande Mosquée à Jérusalem. Et puis la colère à Vaux-en-Velin, moins de 3 semaines après l'incendie qui a fait 10 morts. Les dealers qui étaient pointés du doigt dans le drame sont toujours bien implantés dans le quartier. On y revient longuement après ce journal. Enfin, votre rendez-vous culture juste avant 13h à LVT midi. Et aujourd'hui, on parlera littérature avec l'énorme coup de cœur de Bernard Lehu pour Crépuscule. C'est le dernier roman de Philippe Claudel. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites dont on va longuement parler. Seriez-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 65 ans?
Tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Quel est pour vous le plus grand chanteur, la plus grande chanteuse de tous les temps? C'est le célèbre magazine musical Rolling Stone USA qui vient de sortir ce classement, et c'est Aretha Franklin.
Et ils ont oublié Céline, surtout.
Ils ont oublié Céline Dion, bien sûr, mais on posera la question.
Pardon, Pascal. Je vous ai coupé.
Non, je vous en prie, et on posera la question évidemment aux auditeurs. Quel est le plus grand chanteur? Moi, la question ne se pose pas, c'est Michel Sardou, évidemment.
Il est dans le classement?
Non, je crois pas, d'ailleurs. Mais il devrait l'être.
La météo, à la fin du journal, avec vous, Peggy Broche.
Petite accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
Merci, Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
À une semaine de présenter sa réforme des retraites, le gouvernement opère une volte-face aujourd'hui sur celle de l'assurance chômage, annoncée un peu en catimini juste avant Noël. Un point crispait particulièrement les syndicats, le fait de baisser la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage. Bonjour Martial Liot.
Bonjour.
Eh bien finalement c'est abandonné.
Oui, le décret était passé discrètement le 23 décembre. L'idée était la suivante, une baisse de 25% de la durée d'indemnisation si le chômage est orienté à la baisse sous les 9%. Donc comme en ce moment, ça c'est ce qu'on appelait la période verte. Si vous avez moins de 52 ans, vous ne serez plus indemnisé pendant 24 mois, mais pendant 18 mois, ça c'est toujours d'actualité. Mmh. Et puis si on passait sous les 6%, alors cette fois, la durée d'indemnisation baissait de 40%. C'est ce dernier point qui est mis de côté dans la réforme qui entre en application dans un mois. Denis Gravouille, le négociateur sur l'assurance chômage pour la CGT, reste quand même sur ses gardes.
On peut d'une part constater que le gouvernement a reculé parce qu'il avait fait n'importe quoi dans la rédaction, et d'un autre côté, sur le fond, il continue à s'attaquer aux droits des chômeurs et c'est inacceptable.
Denis Gravouille donc avec Nerissa Emani, prudence des syndicalistes parce qu'Elisabeth Borne admet que la concertation n'a pas été suffisante sur ces 40%, mais cette idée reviendra sur la table lors des prochaines discussions. Pour l'instant, on est à 7,2% de chômage dans la population active.
Ça fait pas très sérieux quand même.
Bah, on n'est pas à 6% et c'est surtout pas la peine de froisser les syndicats.
Exactement,
aujourd'hui.
Exactement,
ce
décret passé en catimini le 23 décembre, tout ça fait un peu amateurisme.
Là, c'est surtout un recul tactique, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir les syndicats contre soi sur l'assurance chômage et en même temps sur les retraites, puisque c'est le prochain dossier.
Merci beaucoup, Martial Liot.
Et donc, on attend maintenant le texte sur la réforme des retraites. Ce sera mardi prochain. Alors, tout le monde l'attend, j'allais dire, comme le Messie.
Oui, je ne sais pas si la
Ça fait 6 ans qu'on attend, donc peut-être que le 10 janvier, on va nous expliquer que c'est encore reculé. Ça fait juste 6 ans qu'on attend.
En tout cas, ce matin, chez nos confrères de France Info, Elisabeth Borne a déjà dressé un cadre pour cette réforme, une opération déminage, Thomas Després. Et comme on imagine déjà qu'il sera difficile de convaincre les syndicats les plus réfractaires, les mains tendues visent surtout la droite aujourd'hui.
Oui, objectif, amadouer les Républicains, parce que sans eux, ce sera 49-3 obligatoire, synonyme de passage en force pour l'éviter. Elisabeth Borne a donc pris le soin ce matin de rassurer, de donner des gages sur l'âge de départ à la retraite. Les 65 ans ne sont plus un totem, dit la Première Ministre. Ça tombe bien, parce qu'au Sénat, les Républicains avaient proposé 64 ans. Voilà une première piste pour négocier. Autre concession dévoilée ce matin, la durée de cotisation. Elle restera de 43 ans pour partir à taux plein, comme prévu dans la dernière réforme. Enfin, autre ouverture sur l'emploi des seniors, cette fois plutôt à destination des syndicats, qu'elle recevra à partir de cet après-midi. Elisabeth Borne n'exclut pas de contraindre les entreprises à maintenir en activité les plus de 50 ans. Bref, autant de signaux pour faire baisser la pression, donner le sentiment que les inquiétudes ont été entendues et que tout reste ouvert, même une fois que le texte aura été présenté la semaine prochaine. Elisabeth Borne l'a répété, il restera les discussions au Parlement.
Merci Thomas Després.
Le gouvernement qui fait aussi un geste pour les boulangers, et ça c'est un geste important.
Oui, les artisans, vous le savez, durement touchés par l'augmentation des prix de l'énergie, ils pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales pour soulager les trésoreries. Ils auront aussi la possibilité d'étaler leurs factures énergétiques. Alors, les représentants du secteur étaient reçus ce matin à Bercy. Bien, mais peut mieux faire, déclare à la sortie Dominique Henract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Toute mesure est bonne dès le moment où on peut décaler des charges, que ce soit les impôts ou les charges sociales. Mais le fait de les reporter, évidemment, que dans des passages difficiles, puisque là, on sait que sur les heures pleines d'hiver, c'est ce qui va être le plus cher. Effectivement, le fait de décaler tous ces paiements, ça fera du bien à une entreprise. Maintenant, pour vous dire que c'est suffisant pour une facture qui va passer multipliée par 10 ou 12, évidemment que non, mais rien ne sera suffisant. D'où cette demande qu'on a fait au ministère. Ils ont rendez-vous avec les énergéticiens cet après-midi pour voir comment on peut ne plus avoir de factures comme ça qui sont en fait la fin d'une boulangerie. Et en plus, c'est pas très intéressant pour eux parce qu'ils enverront une ou deux factures et après c'est terminé. Le boulanger fermera.
Dominique Henract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie au micro-RTL d'Armel Lévy.
Des urgences saturées, d'après les syndicats, plus de 90% des infirmiers et aides-soignants en arrêt maladie. Voilà la situation catastrophique aux urgences de Thionville, vous l'écoutez peut-être depuis ce matin sur RTL en Moselle.
Et impossible évidemment dans ces conditions de prendre en charge les malades qui sont donc redirigés vers d'autres établissements voisins, notamment l'hôpital Mercy de Metz, où pour faire face à l'afflux de patients, on a installé en toute hâte une tente médicale sur le parking, Vincent Serrano.
Oui, une tente en toile blanche d'une trentaine de mètres carrés maintenue par une structure métallique. Une tente prête à être chauffée, équipée de tout l'équipement nécessaire. Mais c'est pour l'instant dans les urgences que les brancards s'amassent par dizaines dans les couloirs, que les soignants courent dans tous les sens, débordés. Elena, aide-soignante épuisée, est aujourd'hui en arrêt maladie. Elle qui a eu à prendre en charge des patients qui attendaient comme ça depuis près de 90 heures.
Nous, en fait, on n'ose plus regarder les patients dans les yeux. On commence vraiment à avoir honte des soins. Il faut rechanger aussi les blouses des patients et dans le couloir avec des paravents entre trois brancards. Pendant 4 jours, malheureusement, les gens, on leur fait les soins d'hygiène minimum. Pas de douche.
C'est d'ailleurs un médecin urgentiste qui a signé l'arrêt maladie de Marie, une infirmière.
Tous les jours, ces derniers temps, je viens travailler avec la boule au ventre. Peur de me dire comment va être le service quand je vais arriver, comment va se passer mon poste.
Elle doit reprendre le chemin des urgences vendredi. Le CHR Metz-Thionville espère d'ici là ne pas avoir à ouvrir la porte zippée de la tente sur le parking.
Vincent Serrano à Metz pour RTL. Des milliers de personnes actuellement réunies à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise pour rendre un dernier hommage aux victimes de la tuerie raciste du 23 décembre dernier à Paris. Tué par un homme de 69 ans qui a reconnu une haine des étrangers devant les enquêteurs. La communauté kurde tient à honorer donc les victimes avant que leur corps ne soit rapatrié sur leur terre natale.
Direction Jérusalem à présent, où la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des mosquées fait craindre un regain de tension.
Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite israélienne, s'est en effet rendu tôt ce matin sur le lieu saint situé dans le secteur musulman de la vieille ville. Une provocation d'après les Palestiniens et une provocation assumée, Léo Breuer-Potier.
Oui, clairement, ça correspond bien au profil de cet homme de 46 ans. Devant le concert de réactions négatives, le ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir, avait fait mine de reporter sa visite sur le mont du Temple. Mais finalement, tôt ce matin, le voilà qui monte sur ce que les musulmans nomment l'esplanade des mosquées. Alors en Israël, Ben-Gvir, on le connaît hein, depuis quelques années maintenant. En 2007, il est condamné pour incitation au terrorisme. C'est un politicien qui séduit par son discours sécuritaire. Il est doté d'un port d'armes et il n'hésite pas à brandir son pistolet lors de manifestations à Jérusalem. Il appelait même les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur les manifestants. Alors quand on sait qu'aujourd'hui c'est lui qui supervise la police, eh bien ça inquiète. Ce n'est quand même pas un hasard si Ben-Gvir, un jour avant de devenir ministre, se faisait sermonner par le président israélien Isaac Herzog, lui priant de se tenir à carreau. Bon bah c'est raté.
Léo Breuer-Potier en Israël pour RTL.
RTL Midi. Le foot et les stars du Paris Saint-Germain qui se croisent avant de se retrouver. Mbappé, acclamé à New York. Messi, lui, le sera bientôt à Paris.
Le champion du monde argentin fait son grand retour dans la capitale aujourd'hui.
Quand même, ça fait plus de 10 jours que Mbappé est de retour.
Oui, alors ça ne vous aura pas échappé, mais il y en a un qui est allé célébrer un titre et l'autre qui n'avait pas grand-chose à fêter.
Et alors, ils ont joué tous les deux le dernier match ensemble, le dimanche.
Alors, rassurez-vous, Kylian Mbappé est en vacances depuis la défaite à Lens. Donc le Français qui sauve quelques jours de vacances, Eric Silvestro, aux États-Unis.
Oui, après un retour anticipé, lui, pour disputer les deux matchs de Ligue 1 contre Strasbourg et Lens, Kylian Mbappé, mais également Achraf Hakimi ont assisté à la victoire des Nets de Brooklyn contre les Spurs de San Antonio en NBA. Longuement ovationné par le public dans la salle, le Français et le Marocain ont reçu un maillot de la star Kevin Durant et salué tout l'effectif des Nets dans le vestiaire. L'attaquant des Bleus a ainsi pu mesurer une cote de popularité grandissante de l'autre côté de l'Atlantique. Pendant ce temps, Lionel Messi, lui, célébré comme un dieu en Argentine après le titre mondial de l'Albicéleste, a fait le trajet inverse après une semaine en famille chez lui à Rosario, au calme. Il est attendu en début d'après-midi au camp des Loges pour un petit check-up. Le reste de l'effectif bénéficiant d'une journée off, la reprise de l'entraînement n'est prévue que demain matin pour l'Argentin, qui ne devrait logiquement pas disputer le 32e de finale de Coupe de France vendredi à Châteauroux. On le reverra peut-être, à mon avis, contre Rennes dans 10 jours.
Merci beaucoup Eric Silvestro. Et toujours à propos de football, Lula, le président du Brésil, viendra se recueillir à son tour dans quelques minutes devant la dépouille de Pelé au stade du Santos FC avant l'inhumation, vous le savez, dans l'intimité familiale du roi du foot brésilien. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, toujours de la douceur mais aussi de la pluie.
Oui, on a une perturbation qui est en train de s'évacuer par le sud-est. Alors, il reste très peu de pluie, hein, mais voilà, ça s'évacue au fur et à mesure. On a de la neige également à 1800 mètres sur les Savoies. Sur le nord-est, c'est entre nuages et éclaircies. Et une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne avec des pluies assez soutenues entre la Bretagne et le Cotentin, avec également du vent. En revanche, c'est sec mais bien nuageux entre les pays Pays-de-la-Loire et le Nord. Et partout ailleurs, on retrouve de belles éclaircies entre le sud-ouest en allant vers le massif central et en remontant vers l'Île-de-France, même si c'est vrai, quelques plaques de grisailles peuvent résister dans le sud-ouest. Tout ça sous des températures en baisse à l'est, mais qui sont toujours douces pour la saison, de 7 à Langres jusqu'à 18 à Ajaccio, 17 à Perpignan, 16 à Bastia, 14 degrés à Biarritz, 13 à Nîmes, 12 à Montauban, 11 à Tours, 10 à Nevers et 8 à Dijon.
Merci beaucoup, Peggy.
C'était le 16 décembre dernier, 10 morts avant Envelin, dont 4 enfants. Et bien, 3 semaines plus tard, les dealers sont toujours présents. On en parle dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Quand on est arrivé, ils étaient déjà deux dans le hall avec pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc prêtes à être réinstallées. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre.
Laetitia, la fille de résident de l'immeuble victime d'un incendie, on le disait le 16 décembre dernier à Vaux-en-Velin, et près de 3 semaines plus tard, vous avez pu entendre ce matin sur RTL la colère de ces riverains alors que les dealers pointés du doigt dans le drame semblent avoir réinvesti le quartier. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Lyon. D'abord, peut-être un point avec vous sur l'enquête en cours. On a beaucoup dit que le hall squatté pourrait être à l'origine du sinistre. Est-ce qu'on en sait plus ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des interpellations ?
Écoutez, non, aucune interpellation depuis le 16 décembre, date de l'incendie. Les policiers de la PJ travaillent dans l'ombre. Ils sont en train d'identifier tous les squatteurs dealers qui fréquentaient ce point de deal, sans doute une bonne dizaine de personnes, connues des habitants pour certains, mais surtout des différents services qui travaillent sur Vaux-en-Velin, les STUP, les BST, les fameuses brigades spécialisées de terrain ou encore les policiers municipaux. Il faut donc croiser, compiler toutes ces informations. Une fois les noms connus, il faut les localiser, vérifier leur géolocalisation grâce aux portables ce soir-là pour ceux qui sont déjà connus, qui sont déjà sous surveillance, et vérifier les fadettes, les appels passés, s'il y en a eu, encore une fois, pour les délinquants déjà connus, déjà suivis. Sinon, ce travail d'analyse des portables sera effectué lors des gardes à vue. Aucune pour l'instant. Ce sera aux deux juges d'instruction de décider du bon moment, quand la liste sera définitive et que tous les suspects seront logés. Sans doute une grosse opération à venir pour tous les interpeller. En même temps, opération qui se prépare, opération lourde avec des effectifs conséquents, même si encore une fois c'est la piste accidentelle qui est privilégiée sur ce point de deal du 12 chemin des Barques. Un branchement électrique défectueux, un mégot qui aurait pu enflammer le canapé et les lambris de l'entrée, provoquant un intense incendie. Mais les enquêteurs veulent évidemment entendre tous les protagonistes présents sur place ce soir-là pour comprendre les circonstances du drame et déterminer les responsabilités.
On entendait tout à l'heure cette habitante de Vaux-en-Velin parler du retour des dealers dans le quartier. J'entendais ce matin un syndicaliste d'un syndicat de police qui disait qu'en fait, il n'était jamais parti. On sait que c'est un sujet sensible sur place.
Exactement, en fait, pas de retour des dealers. Ils n'ont jamais quitté le quartier, simplement d'endroit, plus de points fixes dans un hall d'entrée, mais du deal plus discret, dans des voitures sur les grands parkings à proximité ou au pied de bar à l'abri des regards. Et ce, malgré les efforts de la police. Sur le mois de décembre, 60 dealers ont été interpellés à Vaux-en-Velin, dont une vingtaine depuis l'incendie. 6 par exemple le 24 décembre. Bon, du 24 décembre, quelques chiffres encore. Une centaine d'affaires de drogue ont été traitées, résolu en 2022 simplement sur Vaux-en-Velin, en hausse de 75% par rapport à l'année précédente. 400 consommateurs, petits revendeurs, ont également été arrêtés et condamnés à des amendes de 150-200 euros minimum pour la plupart. Enfin, pour tenter de sécuriser les habitants, une vingtaine de CRS sont affectés sur le quartier du Mas du Taureau depuis l'incendie, essentiellement en fin de journée et une bonne partie de la nuit.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Guillaume Chiez, vous êtes en studio avec nous, vous êtes vous, spécialiste police-justice, hein, ici RTL. Alors, les points de deal qui se déplacent et qu'évoquait Frédéric à l'instant, évidemment, ce n'est pas une spécificité de Vaux-en-Velin.
Non, c'est malheureusement un grand classique. Hein. Tous les policiers qui luttent localement contre ce qu'on appelle les petits trafics de SUV nous le décrivent. Le dernier bilan qui date de septembre dernier recense 3266 points de deal dans toute la France. Un chiffre en baisse selon le ministère de l'Intérieur. 686 lieux de vente ont été éradiqués en 8 mois. Pour en arriver là, les autorités ont mené plus de 9000 opérations. C'est la fameuse stratégie de pilonnage prônée par Gérald Darmanin. Sauf que même la patrouille patronne de l'OFAST, l'Office anti-stup, dresse ce constat. Ça ne veut pas dire que ces points de deal ont totalement disparu. Le trafic se reporte, se diversifie. Lorsqu'on interpelle des dealers, tout de suite après, de nouvelles petites mains viennent gérer les lieux de vente, parfois à quelques dizaines de mètres du précédent.
C'est quoi la solution ?
C'est dur à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut privilégier une vision plus globale. Lutter à l'échelle des petits points de deal, c'est pas suffisant. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de créer l'OFAST. L'idée, c'est de regrouper toutes les informations qui remontent du terrain, mais aussi et surtout lutter contre les gros trafiquants internationaux, faire en sorte que les points de deal cessent d'être approvisionnés, ou au moins qu'ils aient du mal à se constituer un stock. Depuis 3 ans que l'office existe, la stratégie commence à porter ses fruits, puisque une dizaine de gros trafiquants internationaux qui a breuvé la France par tonnes de cannabis ont été interpellés. Mais là aussi, il existe un phénomène de remplacement, plus long certes, mais quand un gros bonnet tombe, un autre prend généralement la relève.
Merci Guillaume, merci beaucoup Frédéric Perruche, à vous Envelin. Donc, on suivra évidemment les avancées dans cette enquête sur RTL.
Dans un instant, laissez-vous tenter midi, on va parler d'une drogue dure ou douce, la littérature. Avec vous, Bernard Lehu. Bonne année, Bernard.
Mais bonne année, Pascal. Merci.
Vous allez bien ? C'est une drogue dure ou douce, la littérature ?
Oh, elle est très, très douce.
Et donc, de votre coup de cœur, on va en parler dans cette rentrée. Le dernier, Philippe Claudel. À tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours de RTL Midi et il y a 2 rentrées littéraires, comme s'il n'y avait pas assez de romans qui paraissaient. Il y en a 600 à peu près en septembre, c'est ça ? Généralement.
Alors, cette année, c'était un peu moins. On était à 450, enfin sous la barre des 500.
Et là, on s'intéresse à la rentrée d'hiver dans les librairies.
Là, on va tourner à peu près, j'ai regardé rapidement, à plus de 300 romans.
Donc il y aura cette année à peu près 800 romans d'édités en France.
Enfin, à cheval sur donc, oui, bien sûr. L'automne 2022 et cet hiver 2023.
Et heureusement, pour faire le tri, vous êtes là, Bernard Lehu, pour nous conseiller sur les meilleurs ouvrages à lire. Énorme coup de cœur déjà en ce début d'année pour vous. Coup de cœur pour le livre de Philippe Claudel qui paraîtra demain chez Stock. Son titre, c'est Crépuscule.
Ah oui, quel bonheur de voir Philippe Claudel renouer avec la grande veine romanesque de ses 2 plus beaux livres, Les âmes grises, on en parlait il y a un instant pendant la pub avec Pascal, prix Renaudot à l'époque, il y a 20 ans hein, déjà, c'était en 2003. Et puis, le rapport de Brodeck, autre grand roman de Philippe Claudel, pris Goncourt des lycéens. Et comme dans ces 2 livres, eh bien, l'histoire débute par un meurtre. Ici, celui du curé d'une petite ville aux confins d'un empire qui n'est pas nommé, mais qui pourrait être l'Autriche-Hongrie au début du 19e siècle. Crépuscule, ce roman ambitieux, Philippe Claudel le portait depuis longtemps.
Je l'ai commencé il y a 9 ans, je l'ai fini 9 ans plus tard, vous voyez. Donc il y a eu une maturation lente et longue. C'est un peu comme certains vins, il y en a qui sont à boire jeunes, il y en a d'autres qui demandent du temps en fût et en cave. Ça a été le cas pour celui-ci, qui avait une matière finalement qui s'est aussi enrichie dans ces 9 années, où le monde quand même a connu un certain nombre de tremblements. Et je me suis rendu compte justement que le roman devenait, de façon détournée, parabolique, eh bien un miroir de ce que nos sociétés ont connu.
Oui, on pourrait dire, Claudel, une fois de plus, écrit sur une période ancienne, pourquoi ne parle-t-il pas de notre temps? Et en fait, ben voilà, notre temps, il est là au cœur de ce livre. Et justement, par le biais de la parabole, avec une puissance, une force peut-être plus grande qu'un roman hyper contemporain.
Oui, c'est des chemins détournés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place une forme de pittoresque qui est aussi agréable quand on est lecteur de roman. Moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que j'aime qu'un roman m'emporte ailleurs. Et puis à un moment, quand je le lis, je me dis, mais je ne suis pas si ailleurs que ça, finalement. Je suis ailleurs avec les décors, avec les noms, avec l'époque. Mais finalement, cet auteur ne fait que parler de moi aujourd'hui.
C'est la question qu'on posait en rédaction en 6e. Pourquoi lit-on ? Et il donne une réponse d'une certaine manière. Alors justement, comment Crépuscule, le nouveau roman de Philippe Claudel, résonne-t-il avec notre actualité ?
Le meurtre du curé de la petite ville imaginée par l'écrivain va semer le soupçon, puis la haine entre les différentes communautés religieuses qui vivaient jusque-là en bonne entente. Il est question aussi de manipulation, de l'information, de vérité alternative, de scandales et de violences sexuelles. Bref, le monde ancien et imaginaire de Crépuscule, eh bien, ressemble furieusement au nôtre.
Et Bernard, est-ce que Philippe Claudel est toujours aussi doué pour croquer ces personnages d'exception?
Oui, alors vraiment, et à commencer par le duo que forme le policier qui mène l'enquête sur la mort du curé et son adjoint. Le premier est un homme habité par le sens du devoir, mais dévoré par ses pulsions sexuelles. Le second est un géant débonnaire, un peu simplet, mais qui cache l'âme d'un poète. Et puis, il y a l'inoubliable Lémia.
Alors Lémia, c'est une adolescente, c'est elle qui, avec son petit frère, qui découvre le corps du curé assassiné ce soir d'hiver, et le policier soudain va être de plus en plus fasciné par cette jeune fille qui vit avec son père, sa femme qui est morte, donc Lémia n'a plus sa maman, c'est elle qui s'occupe de ce foyer pauvre comme elle le peut, et c'est un être absolument pur, mais cette pureté éveille la concupiscence du policier qui ne la voit que comme une proie sexuelle. Et là encore, bien entendu, on est dans un roman qui se fait miroir de toutes ces affaires qui ont trait à l'inceste ou qui ont trait à la pédophilie. C'est là où finalement on se rend compte qu'on n'écrit jamais en dehors d'une époque et que les écrivains ne sont finalement que des transcripteurs.
Si Philippe Claudel nourrit son roman de l'actualité, il s'inspire aussi de son propre vécu.
Ah oui, alors ça c'est toujours passionnant de découvrir de quoi est fait un roman. Dans Crépuscule, l'adjoint du policier et le souffre-douleur d'un triste sire, confidence étonnante de Philippe Claudel.
Ça c'est une, je ne vais pas faire pleurer, mais c'est une expérience tout à fait autobiographique. On met toujours un peu de soi dans les livres. J'ose pas dire un camarade d'école, puisque ça n'en était pas un, mais en tout cas, elle était dans la même classe que moi. Prenait plaisir, quand j'étais en CM1, CM2, à me torturer gentiment, presque à chaque récréation. Ouais. Je sais ce que c'est que de ne pas le dire, parce qu'on n'arrive pas à dire ça à qui que ce soit. Donc j'ai toujours gardé pour moi, et simplement, j'ai ma petite vengeance aujourd'hui, j'ai parlé de lui dans un livre.
Le pouvoir de la littérature. Autre confidence de l'écrivain, la présence de deux chiens dans son roman surnommé Les Beaux, eh bien ces chiens ne sont pas là par hasard.
Et là je dois dire aussi, c'est quelque chose d'autobiographique, depuis que je suis enfant je rêve d'avoir un chien. La vie a fait que ça n'a jamais été possible, sauf depuis 4 ans où j'ai un chien. Et donc, le chien est arrivé pendant l'écriture du livre. La relation que j'ai pu découvrir avec mon chien a complètement nourri celle que j'ai essayé d'écrire. Et je me suis rendu compte combien ces animaux prenaient une place considérable dans nos vies et pouvaient aussi être source de bonheur, d'apaisement, de tendresse, deviennent des entités absolument fondamentales dans nos existences.
Et voilà, c'était quelques secrets de fabrication du roman de Philippe Claudel, Crépuscule, le grand livre, vraiment, j'insiste, de ce début d'année. C'est à paraître demain chez Stock.
Il ne sait pas qu'écrire, il sait également parler, manifestement, Philippe Claudel, parce qu'on l'écoute avec intérêt. Il y a une chose que vous ne nous avez pas dit, si ce livre fait 200, 300 ou 400 pages.
Ah, alors il fait 500 pages, même, un petit peu plus de 500 pages.
Donc c'est important
pages.
De le dire, bien sûr.
Vous avez entendu 9 ans quand même d'écriture.
Le livre de Philippe Claudel qui sort donc demain. Oui. Demain aussi, on attend le film Tirailleurs avec Omar Sy. Un film qui revient sur le destin de ces soldats africains enrôlés pendant la Première Guerre mondiale dans les rangs de l'armée française. L'acteur Omar Sy sera l'invité exceptionnel de Julien Cellier ce soir. Rendez-vous à partir de 18h.
Et Philippe Claudel, c'est chez Stock dans ce qu'on appelle La Bleue, qui est une collection prestigieuse, l'équivalent de La Blanche, chez Gallimard. Et on se bat pour avoir ce type d'auteur, j'imagine, dans les maisons d'édition.
Bien sûr.
Il est 12h58, on va parler avec les auditeurs. Si vous voulez parler, par exemple, de littérature, eh bien, pourquoi pas, puisque tout est possible jusqu'à 14h30. À tout de suite. RTL Midi.